Coucou les amis, c'est Camille de Camille et Justine, je sais pas si vous connaissez. Avant que l'épisode démarre, je voulais vous dire que j'étais en spectacle en ce moment à la Nouvelle Scène à Paris tous les vendredis à 21h. N'hésitez pas à venir me voir et si vous vivez pas à Paris, bah déjà tant mieux pour vous. Et vous pouvez aussi venir me voir en tournée, j'annonce toutes mes dates sur mon compte Insta. Donc vous pouvez aller checker ça. Merci, bisous et bon épisode.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça va pas?
Hey!
Allez, on se tient au jus!
Salut, c'est Camille et Justine et bienvenue dans On se tient au jus. Aujourd'hui, on est avec Enora Malagré et on boit un petit jus de réveil des tropiques avec de l'ananas, de la mangue, du fruit de la passion, de la pomme et de la clémentine. Alors, Enora, on va te présenter
bonjour.
Notre. Bonjour!
Bonjour!
Bah
oui,
Enora, bonjour! Enora, bonjour! Comment vas-tu, Enora?
Très bien, aujourd'hui particulièrement bien.
Ah, trop bien.
Je suis trop contente de vous voir en vrai.
Oui, oui! Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Enora Malagré, on va la présenter. Et puis, même si vous la connaissez, bah, on la présente quand même. Comme éclectique, elle est comédienne à la télé et au théâtre, animatrice, chroniqueuse et autrice.
N comme Nova, la radio sur laquelle elle a commencé sa carrière et on l'a entendue ensuite partout, sur Énergie, Virgin, Europe 1, RMC.
O comme Onyx, la salle de spectacle de plaisance du Touche où vous pouvez aller la voir le 4 février dans la pièce Derrière le rideau si vous habitez la Haute-Garonne. On a trouvé un O.
Ouais. Ah ouais, bravo.
R comme résiliente, elle vit avec de l'endométriose et a participé à la libération de la parole autour de ce sujet, notamment avec son livre Un cri du ventre.
A comme affirmée, on s'est beaucoup identifié à son franc-parler sur les plateaux télé et on l'a toujours beaucoup admirée. C'est pourquoi on est hyper contente qu'elle soit avec nous aujourd'hui.
Oh, merci, ça me fait plaisir.
Voilà.
Non, franchement, merci beaucoup.
J'ai vu un peu, pour faire la croisiche, parcours un peu des interviews, des choses comme ça, que t'étais pas fan d'être qualifiée de grande gueule et tout, qu'on t'a un peu enfermée dans cette case. Mais en tout cas, nous, c'est nous par contre, en tant que meuf un peu grande gueule, bah, qu'est-ce que ça nous a fait du bien. Enfin, vraiment,
oh, bah, c'est gentil, voir, j'entends peu ça.
C'est vrai.
Bah non, mais alors en fait, il y a un truc aussi, c'est qu'on dit souvent, ah, celle que vous avez adoré détester, ah. La grande gueule, oui, qui n'a pas vraiment une bonne image. Et je trouve ça très dur d'entendre ça, parce que je ne crois pas que ça soit si vrai.
Bah,
à chaque fois que je croise des gens dans la rue... moi, j'ai l'impression qu'ils m'aiment bien.
Mais oui,
bah, oui, mais
oui.
On m'a longtemps, tu sais, ça aussi, ça fait partie d'une forme d'humiliation
oui.
que j'ai vécue pendant longtemps, en fait, de me convaincre que je n'étais pas aimée et de me convaincre que ce que je disais, que mes coups d'éclat, mes coups de gueule étaient soit dérangeants, soit mal à propos, etc. Mmh. Et puis, en fait, grâce à vous, grâce à la nouvelle génération, je me rends compte qu'en fait, non. En fait, c'était ceux de l'ancien monde qui n'aimaient pas trop ce que je pouvais secouer.
Oui, et parce que t'étais une femme aussi. Enfin, je veux dire,
et qui
associe un mec qui avait ton rôle sur un... Enfin, ton rôle, en plus, c'est débile. Donc c'est comme si on n'était que dans un rôle, mais...
Bah, ça en l'occurrence, tu as raison, parce que c'en était un. Mais oui, tu as raison. C'est vrai que, par exemple, les hommes qui parlent très fort, qui vocifèrent, qui ont des prises de paroles très tranchées, on trouve ça très chouette, on trouve ça même assez... voilà, exactement. Et quand une femme fait ça, forcément, ça devient pénible. De toute façon, dès qu'on augmente le volume sonore, hein, c'est pénible, ne serait-ce que par nos voix, apparemment, parce qu'on prend trop de place. Donc c'est vrai que moi, j'ai subi un peu ça, parce que nous n'étions pas beaucoup à faire ça à cette époque-là. Sur les plateaux télé, j'entends.
Ouais.
Donc forcément, bon, j'ai subi quelques foudres et j'ai tenu. Hein.
Mais en vrai, moi je pense, moi j'ai plutôt pas mal regardé la télé et machin, mais je crois pas que je me sois identifiée à une femme sur un plateau télé avant de te voir dans TPMP. Enfin, pour
mais
moi,
disons, mais moi je vais venir vous voir plus souvent. C'est
non,
ma
mais,
fête, là.
Non mais ce que je veux dire, non mais ce que je veux dire, c'est non mais parce que c'est, enfin c'est parce que moi pareil, je suis plutôt grande gueule, des avis forts et tranchés, et je me disais bah je pense que c'est ça doit être une des premières fois. Alors je dis pas que j'ai regardé toutes les émissions, je pense qu'il y en avait peut-être d'autres, mais où je voyais une meuf qui avait ce comportement-là, et peut-être que effectivement on t'a enfermé dans une case et que ça devait pas être que sympa. Et que peut-être après on t'a trop appelé pour faire ça, mais en tout cas nous chez nous ça nous a fait un peu de bien, je crois.
Merci.
Mais oui, mais il y a plein de mecs qui ont tendance à enfermer ce rôle de grande gueule dans un truc, enfin, à l'associer à un truc négatif, quoi. Surtout chez les femmes, effectivement, c'est tout de suite des harpies, des meufs aigries qui sont jamais contentes, alors qu'effectivement, un mec qui a le même comportement.
On fait pas cas, quoi. Quand on parle un peu plus fort, quand on a des revendications, effectivement, tu as raison, c'est associé à la colère. Mais on peut avoir des revendications sans être en colère.
En plus.
Moi, il y a des tas de choses qui me remuent, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais je le dis avec beaucoup de... Enfin, parfois, avec beaucoup de calme. Après, évidemment, moi, je faisais partie d'une émission, il fallait faire le spectacle. C'est de la télévision. Je veux dire, sinon...
Parce qu'avant ça, tu faisais de la radio, principalement. Oui. Non, tu avais fait même l'émission avec Coé aussi.
Oui, oui, qui était de la radio.
Et tu faisais pas... Pas du tout dans cet angle-là.
Ça. Moi, j'étais critique cinéma et théâtre. J'étais déjà comédienne en fait. Donc, okay. Et puis pour gagner ma croûte, j'ai rencontré une femme qui a changé ma vie qui s'appelle Fadia Dimergi, qui a cofondé Radio Nova. J'ai commencé à faire de la radio. Moi, ma spécialité, c'était de parler de théâtre ou de cinéma. Après, j'ai fait donc quelques mois, parce que c'était même pas un an, j'ai fait quelques mois avec Coé. Ça serait trop long à raconter, mais parce qu'en gros, Jean-François Bizot, avant de mourir, le fondateur de Nova, m'avait dit, si tu veux vraiment faire quelque chose de militant, bah, parle de Larry Clark ou je sais pas, de Jean-Michel Basquiat sur une radio comme Énergie. Ça c'est militant, le faire sur Nova, c'est un peu facile. Voilà, donc du coup, hop, je rencontre Coé. Je savais même pas qui c'était, parce que moi, j'ai regardé pas la télé. Donc je le fais, et puis là, la notoriété commence à grandir. Donc, évidemment, chez Coé, je ne parlais pas théâtre. Et puis, j'ai été un peu happée. J'ai fait des trucs. Enfin bon, ça a été très, très vite. Mais à la base, moi, je n'étais pas du tout faite pour faire ni de la télé et ni camper ce rôle-là. Et puis, j'ai rencontré Cyril, que je connaissais déjà. Et puis, on m'a proposé ce travail à Touche pas à mon poste en me disant, tiens, il y a un rôle, mais vraiment, hein, pour voir, c'est celui de la grande gueule, la cousine insolente.
Ah oui, c'est comme ça qu'on te l'a vendu.
Oui, oui.
La cousine insolente.
Okay. Parce qu'il y avait Jean-Michel, c'était le tonton libidineux, etc. Et,
oui,
et chacun...
C'est pensé comme une série.
Bien sûr, c'est pensé comme une série.
Malin.
C'est ça qui était brillant.
Ah, c'est malin.
Et d'ailleurs, c'était très joyeux et brillant. Hein. Et moi, j'ai dit, bah, génial. Mais vous verriez les premières émissions de télé, mais je ressemble à Kurt Cobain juste avant sa mort. Enfin, j'ai une tronche. Ça se voit que je sais pas où je vais et que je sais pas ce que, qu'à la télé, il faut se make-uper, machin. Je ressemble vraiment à, enfin, pré-décès. Et donc, du coup, c'est vraiment ça. Et après.
C'est mieux que après.
C'est mieux que post-mortem. Ouais, ouais. Et après, voilà. Après, les choses vont vite. Et puis, j'ai quand même adoré faire cette émission, mais adoré. Et puis j'ai gagné beaucoup de sous. Mais oui, non, mais il faut quand même dire les choses. Et
j'en profite, je fais une parenthèse parce qu'on parle. On parle aujourd'hui de cette émission plutôt en mal. J'ai été très fan de l'émission aux premières
imaginez tout ce qu'on
France
a réussi
4.
À dire.
Je n'avais jamais vu un présentateur mais comme ça. J'avais jamais vu des gens comme ça autour d'une table. C'est devenu ce que c'est devenu et on n'est pas là pour faire le procès de l'émission parce qu'on le fait bien.
On le fait déjà bien assez sur nos réseaux sociaux.
Parce que comme on dit, on n'est pas obligé d'en reparler tout le temps. Mais on oublie parfois que. Au début, c'était vraiment génial.
Non, mais ce gars a révolutionné la télé, enfin, on va se le dire. Il a démocratisé une parole qu'il n'y avait pas. Il a fait des choses, je parle de Cyril Hanouna, fabuleuses. Moi, j'ai pu dire des choses quand même qui ne se disaient pas à la télé. Quand j'ai invectivé Jean-Luc Lahaye, Morandini, etc., on m'a quand même laissé faire. Et il y a peu d'animateurs qui auraient laissé faire, peu de chaînes, à l'époque, c'était sur France 4, qui auraient pu laisser faire. Bref, j'ai quand même passé sur les 5 années, on va dire, parce qu'après, j'étais vraiment un peu fatiguée, tout ça, mais vraiment magique, quoi. C'était tellement cool. Et puis, à la télé, on fait pas grand-chose et puis on est bien payé. Ça, c'est cool. Ouais.
Et ça, c'est ce qu'on veut dans la vie,
c'est
en général.
Ce qu'on veut
ne pas faire grand-chose et être bien payé, c'est vrai. Et partir à la retraite tôt.
On veut ça, hein.
C'est ça. C'est pas le projet prévu par
non,
mon gouvernement.
Non, je crois que c'est... Juste, me permets. C'est pas pour casser l'ambiance, hein, en fait.
Tu as raison. On est mal barré.
Ok, fais-nous un petit rappel désagréable. Super, la bonne ambiance. Travailler. Pour moins d'argent.
Exactement.
Pendant que les milliardaires s'en mettent plein les poches.
Quoi ? Oh,
oui. Mais ils l'ont mérité, Justine. Enfin, tout politisé.
Tu crois qu'ils ont eu tout cuit dans le bec ?
Ah, tu crois que les enfants de Bernard Arnault, ils sont là où ils en sont ?
Comme ça, par hasard.
Pas de fin de phrase.
Trois petits points. La méritocratie, tout ça.
Ah la vache. Et donc aujourd'hui, tu es principalement comédienne.
Ouais.
Tu fais plus trop de chroniques, radio, etc.
Non, parce que ce qu'on me propose, c'est... On me propose hein, souvent, mais c'est souvent pour refaire la même chose. Donc je ne vais pas refaire ce que j'ai déjà fait pendant 7 ans.
C'est-à-dire la cousine.
C'est-à-dire la cousine insolente. Donc ça, je pense que j'ai fait. Puis place aux jeunes. Alors il y a aussi, c'est marrant, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un projet qu'on m'a proposé. Comme je balance toujours un peu, je vais le dire, c'était sur RMC. Alors là, ça me plaisait bien. Et il y a quand même le patron qui a dit non, non, elle a encore trop l'image de TPMP. Oh. Alors je trouve ça quand même fou, parce que ça fait 6 ans que je suis partie.
Oh, c'est chiant.
Ah, ça, c'est con, je l'aurais bien
fait. Mais souvent,
fait.
Les patrons, ils ont vachement d'imagination, je trouve, les patrons.
Ah,
chez,
vachement.
C'est
hein.
vraiment. Donc, ça, arrive bien ça... à se projeter. Non,
ouais,
c'est
ouais, ouais.
Quand même
en plus, c'était une émission militante sur les règles. C'est vrai que je ne suis pas du tout la personne qu'il faut. Hein.
Enfin.
Voilà, donc bisous si tu nous écoutes. mais bon, en même temps, à part ça, tout ce qu'on propose vraiment, mais je sais pas, tous les mois un truc, et je me dis, mais c'est pas possible de vous proposer toujours pareil. Bon, j'ai pas en même temps, ça ne me manque pas tellement. Je suis pas sûre d'avoir complètement envie de retourner dans cette vie-là, étant donné que j'ai fait un choix qui est celui de retourner donc à mon premier métier, comédienne, et puis je produis aussi des documentaires, et ça me rend quand même très heureuse. Ça me prend beaucoup de temps, donc je sais même pas trop si j'aurai le temps de refaire de la télé ou de la radio. Mais la porte, il faut jamais fermer la porte. Si on propose quelque chose donc qui me plaît vraiment, j'irai. Hein. Moi, je suis fermée à rien. Tant qu'on, il faut bosser.
Ouais, tant que ça te plaît. Ouais.
Parce que nous, on n'aura pas tellement de retraite. Pour les gens qui nous écoutent, les intermittents du spectacle, tout ça, ça va pas être une retraite fofolle. Bah donc, du coup,
mais on fait autrement.
On fait autrement et du coup, il faut travailler longtemps. Donc, comme comédienne, ça peut ne pas marcher. La télé, pareil, ça peut s'arrêter. Il faut toujours prévoir une triple vie, quoi. D'avoir plusieurs cordes à son arc, c'est très important pour pouvoir durer le plus longtemps et travailler jusqu'à 80 ans.
C'est aussi pour ça que les artistes, ils ont plusieurs casquettes, ouais, et qu'à chaque fois ils font plein de métiers différents et les gens se disent bah, pourquoi il reste pas juste comédien, bah, parce qu'il faut aussi qu'on fasse d'autres choses pour assurer nos arrières. Hein.
Bah, parce que si on n'est que comédienne et qu'on a passé 30 ans et qu'on nous appelle plus parce qu'on est périmé, ce qu'on disait tout à l'heure, bah, il faut bien qu'on
permettez qu'on passe à la chanson. Hein. Bon.
Permettez qu'on se fasse nos projets.
Permettez-nous, merde.
Tu veux passer à la chanson, Justine?
Oh.
T'enregistrerais un album de Bossa Nova comme Elise Moon?
Oui. Oh, quel joli souvenir.
Si tu devais enregistrer un album de musique, ce serait quel style?
R&B? Sûrement du R&B. Mais j'aime bien la Bossa Nova.
Non, mais quoi? C'est quoi? En vrai, j'ai dit c'est un peu au pif.
Moi, je te vois dans du métal.
Oh, bah disons. Et toi, Nora, tu ferais un album
peut-être
de quoi?
Moi, je rêverais d'être rappeuse.
Ouais, ah bah oui. Ouais,
j'ai essayé quand j'étais jeune, c'était un désastre. Vraiment, c'était très, très humiliant. Et non, mais j'aimerais bien, moi.
Ça tirait bien.
Oh, tu penses.
Ta voix et tes punchlines,
ouais,
là, ça pourrait
un
être
petit album de R&B,
un petit album de rap. Et toi, de la variété,
évidemment. Ah, bah, chanteuse à voix. Ah, bah, bien sûr. Non, mais évidemment, je ferais des. Bien sûr. Je veux faire que ça, la grande variété. Lara Fabian, tu vois. Ouais. Moderne.
Chimène
Badi.
Ah oui, moderne.
Non, mais non, n'importe quoi. Mais j'aime bien la chanson à texte avec des envolées et tout.
Oh là là.
Joule.
Exactement, la chanson à texte avec des envolées.
Il a des textes forts. Hein.
Ceci dit, il a des textes forts.
Ah bon, c'est vrai. Il dit quoi?
Oh, ça.
Ah bah ça.
Ouais, c'est terrible, ça devait s'arrêter pile le temps de ce podcast, puis évidemment la vie serait trop simple.
Bah, ça donne un petit rythme.
La vie ne nous fait pas de cadeaux.
Ah non, vraiment pas. Et lui, il nous fait pas de cadeaux là, le mec qui fait des travaux.
Attends, parce que je voudrais finir sur Jules. Oui. Moi je m'en fous, je crache pas dessus, je m'en fous, c'est pas mon délire, mais pourquoi pas. Puis surtout, il doit être un bon businessman pour en être là où il est. Je le reconnais au moins
non,
ça, mais
il est brillant.
Il dit des textes forts, genre.
Moi je suis pas assez connaisseuse et spécialiste. Non, je vais pas pouvoir te citer des phrases, si c'est ce que t'attends. Mais je suis pas assez spécialiste pour me prononcer. On sait bien, et s'il y a des gens trop fans de Jul, là, ils vont me dire ça va pas la tête, mais pour moi Jul c'est un peu genre comme Maître Gims, ils ont des titres tubes qui sont un peu claqués, entre, je mets des guillemets, dans le sens des textes pas ouf, mais par contre un beat génial, et du coup tout le monde les chante à tue-tête pendant 3 ans de suite parce que c'est des tubes, mais ils ont aussi des textes hyper pointus que le grand public n'écoute pas. Enfin, écoute moins. Et
Maître
que les
Gims,
gens.
Maître Gims, il a du texte pointu.
Ouais, Maître Gims, il a.
Il est vrai que je n'ai jamais écouté d'autres chansons de Maître Gims que celles qui sortent à la radio.
Hyper chaud. Ouais.
Insensible.
Voilà. Ça, c'est les tubes. Et après, dans la face cachée, je crois même que Maître Gims, il a un album. Genre de sons hyper connus et de sons moins connus. Il y a deux CD dans son album et il y a le rap. Parce qu'il y a ce qui vend.
Non, mais pardon.
Il y a ce qui se vend.
Diable, ne mettons pas plus en avant des. Il y a ce qui vend ou est-ce qu'il sait lui-même qu'il serait un peu moins aimé de tout le monde s'il faisait des textes trop engagés?
Évidemment. Non, pas forcément trop engagés. Mais il le sait, parce que ça se vend moins. Bien sûr.
Je l'embrasse.
Michel
Drucker. Michel Drucker en moi.
Je l'embrasse. Vraiment. Au revoir.
T'as déjà fait Michel Drucker?
Oui.
L'émission de Michel Drucker.
Grave.
Et comment il va?
Bah écoute, là je ne sais pas. Si, je l'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Non, non, il va bien. Non, non, j'ai fait le canapé rouge et je peux vous dire que ça...
C'est bien. C'est un très bon intervieweur. Pourquoi il fait une carrière aussi longue, en vrai?
Parce qu'il est très politique, Michel, déjà, parce que... Je l'appelle Michel, genre, ouais, genre c'est mon pote. Non, mais parce qu'il a un talent, mais c'est indescriptible, déjà. Mmh. Moi, je vais te dire, la première fois que je l'ai rencontré, il était invité dans une de mes émissions que j'animais seule. Le mec est arrivé, il avait une fiche, parce qu'il a des fiches sur tout le monde. Il savait où habitaient mes parents, ce qu'avait fait ma mère, etc. Et en fait, non, mais du coup, il a une...
Il se renseigne
bien.
Bah,
du coup, t'as ça trop importante, en fait, t'as l'impression qu'il il a une diplomatie folle. C'est effectivement quelqu'un qui travaille à l'ancienne, donc pas d'oreillette, pas de prompteur, enfin voilà, donc forcément ça donne quelqu'un qui a travaillé énormément ses interviews, qui a toute épreuve, qui peut interviewer tout le monde, c'est-à-dire une fille qui n'est pas grand-chose comme moi, comme je sais pas, Sharon Stone ou Obama. Et quand tu fais le canapé rouge, c'est complètement con, mais j'avais l'impression d'avoir un peu réussi ma vie, quoi.
Oui, un goal un peu.
Ouais, tu vois, t'appelles toute ta famille et puis tellement bienveillant, il est tellement... Moi, il m'a donné des précieux conseils. D'ailleurs, il m'avait dit, c'est marrant, il m'avait dit qu'il n'était pas complètement sûr que la télé soit ça mon endroit, mais il était persuadé que la comédie serait le mien. Et il avait raison. Et quand je le croise, il a un mot toujours... Enfin, bon, après, moi, voilà, je suis en groupie de Michel. Ouais.
Vraiment, groupie. Mais il y a des gens qui le détestent.
Non, il est... Je me demande, je crois qu'il fait partie un peu de ces gens que tout le monde aime, comme Francis Cabrel, non? Enfin,
elle revient toujours.
Francis Cabrel. Tu l'aimes, Francis?
Moi, je l'aime, mais ça fait partie, on est d'accord, des personnalités que personne n'a jamais clashé, non? Francis Cabrel?
Moi, j'aurais vraiment dit Goldman et pas Cabrel.
Ah, Goldman, t'as raison, pardon.
Toi, t'as tendance à citer Cabrel.
Je dis Cabrel, mais parce que je pense que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire je déteste Francis Cabrel.
C'est vrai, t'as raison.
Comme personne. Tu vois,
oui, mais on le connaît pas du tout.
Non,
en fait. C'est vrai qu'il... On le connaît pas.
Mais du coup, c'est sympathique.
Il est planqué dans sa cabane.
Au fond du jardin.
Oui, voilà.
Au fond du jardin.
Et peut-être que c'est pour ça, effectivement.
On le connaît pas. Enfin, c'est vrai qu'on le connaît pas, en fait.
C'est vrai.
Non, mais
il paraît qu'il... Il paraît qu'il a... Moi, j'ai dû... Parce que moi, ça fait partie, enfin, comme vous. Hein. Mes parents, qui étaient fans de Cabrel, moi, je le voyais comme un adulte avec sa grosse moustache.
Ouais, exactement.
Et, donc, je le sexualisais pas du tout, vous imaginez bien. Et bah, il paraît qu'il était chaud de ouf.
Ah ouais?
Ouais.
Que tard.
Mais non, mais genre en mode le Patrick Bruel de l'époque, quoi. Forcément, le mec, c'était le beau gosse de l'époque.
Ouais,
toutes les femmes, en plus, sublime texte d'amour. Il paraît que toutes les femmes en étaient dingues, que je peux imaginer. Ouais. Sauf que moi, quand on m'a annoncé ça, pour moi, et donc j'ai du mal à imaginer Cabrel.
Sex appeal.
Oui, tu sais, genre avoir plein de meufs et tout. Et en fait, si, il avait des grosses terres
dans ta chambre, était là.
Ouais. Et bah Cabrel, c'était le... C'est quoi l'équivalent aujourd'hui? C'est le Dadju de l'époque, quoi, tu vois. C'est dingue.
Dadju, c'est le frère de
Maître Gims.
Maître Gims, n'est-ce pas?
Ouais, c'était pour rester dans une cohérence.
Et la boucle est bouclée.
Voilà.
Bien, bien joué. Pas mal.
Et animatrice.
Donc Francis Cabrel, chaud lapin. Chaud lapin.
Non, mais je dis ça, le pauvre. Ça se trouve, il était marié avec la meuf.
Oui, non, mais c'est symbole.
En tout cas, les meufs
symbole,
voulaient énormément le Ken.
Ah ouais,
c'est
putain.
Ça qui est fou.
Bah, il est pas moche.
J'arrive pas à me rappeler d'autre chose que des cheveux, une moustache.
Et un mulet, non?
Ouais, de grands cheveux, quoi. Du coup, des lunettes. Enfin, je lui mets même une petite paire de lunettes de vieux, tu vois.
On l'imagine pas du tout jeune. Pour moi, il est déjà que vieux.
Ouais.
Que vieux et moustachu. Oui, voilà.
C'est pour ça que c'est chelou, tu vois.
Alors que même Aznavour, alors que c'est vraiment un vieux. Il est mort?
Non, aussi.
Mais c'était vraiment un vieux, vieux grand-père.
On ne sait jamais.
Ouais, j'arrive jamais à savoir.
Bah, c'est grave
quand
même.
Il est éternel.
En tout cas, Aznavour, j'arrive à l'imaginer jeune, mais peut-être parce qu'il y a plus de vidéos contournées. Enfin, tu vois, je peux plus facilement imaginer Aznavour jeune que Cabrel.
Moi, j'y serais allée sans problème.
Pour Aznavour jeune?
Ouais.
Ah ouais.
Bah, déjà, rapport au fait qu'on faisait la même taille, hein, déjà que ça m'aurait quand même vachement aidé.
Il était tout petit?
Oui, il était petit.
Je viens de te dire.
Bien sûr, tout petit. Mais non, je l'ai toujours trouvé beau. Voilà.
Moi, je vois rien d'autre que ce vieux monsieur.
C'est ça, il fait vraiment ça.
Mon ventre, c'est drôle. Le coup, j'ai dit,
là. On dirait qu'il n'ouvrait pas la bouche.
Franchement, j'y étais. J'étais à l'Olympia en 82, là. J'y étais.
M'a 18 ans, j'ai quitté ma province.
Ma meilleure imitation. Je viens de me découvrir un talent.
Bravo.
Donc, pécho Aznav.
Voilà.
Toi, c'est toujours Obispo. Non, c'était peut-être pas physique.
Ah non, pas du tout, il est dégueulasse. Pardon.
Oh, oh non, oui, non, c'est pas gentil. Oui, pardon. Non, non, je reviens. Oh là là, pardon, je reviens sur ce que je disais. Il est absolument pas dégueulasse. Non, c'est vraiment que je. Non, mais parce que, en fait, c'est mon péché mignon, oui, oui. Le premier album de Pascal Obispo.
Bah, c'était fabuleux, hein, quand même.
Bah, j'adorais. Mais,
Si tu dois
on rigole un peu dessus parce qu'on se dit que c'est quand même un peu ringard aujourd'hui, oui, un album de Pascal Obispo. Bon.
Ah ouais.
Mais, et donc, elle se demandait si je l'aimais physiquement. Mais alors, pas du tout, par contre. Je te rappelle quand même qu'il a un filet de moustache collé à sa lèvre.
Mais il l'a eu, et
ça, c'est non.
Ouais, c'est ignoble. Ah, le filet. C'est mort.
Non.
Le fil, c'est non.
Ça, c'est
un fil à couper le beurre au-dessus de la lèvre, c'est non. C'est un non. C'est un grand non.
Mais tu vois ou pas celui qui est.
Oui, parce que un liseré. Pour l'avoir vu plusieurs fois en vrai, il a effectivement un filet. Il est très, très sympathique.
Oui, ah bah, je n'en doute pas du tout. Et malgré tout, charismatique et tout ça, mais vraiment le filet de moustache a été.
Je vais vous raconter une petite anecdote, j'ai l'impression d'être Michel Drucker. C'était ma dernière émission de la matinale de Virgin Radio que j'avais co-animée aux côtés de Danouna. Et c'était la dernière, et vous savez, on est tous complètement hyper émotifs dans ces milieux-là. Donc je pleurais, bien sûr. Et c'était le dernier invité. Et il a vu cette pauvre petite, j'étais en larmes, hein, c'était la fin de ma vie. Alors que pas du tout. Mais, et il a été d'une gentillesse, mais d'une élégance avec moi. Voilà, Pascal, merci. Non, mais parce
non, mais c'est
qu'on
bien qu'on raconte aussi qu'il est gentil dans ce milieu.
Bah oui, parce qu'on ne se connaissait pas. Oui, il pas a obligé. Vu mon émotion, t'es pas obligé. Il m'a pris à part. À côté, dans une salle, en me disant « Mais tu sais, c'est le début. » J'étais pas virée, hein, c'est juste que voilà, j'avais en plus une autre rentrée m'attendait où j'allais avoir ma propre émission. Donc, je pouvais pas faire la matinale et le soir, donc tout allait bien. Mais de quitter une équipe
Le
mec a été d'une gentillesse, pas du tout libidineux, parce que dans ce métier, bonjour.
Oui, et pour une fois,
je me retrouvais avec un mec qui a pas envie de me mettre une main au panier, qui est bienveillant, qui me donne des jolis conseils. Franchement, je vous le dis.
Merci Pascal.
Merci Pascal et big up, franchement. Ouais.
Ok, trop bien. Bah, voilà. J'adore encore plus.
Oui.
Je suis toujours pas fan du filet.
Elle ne se dit pas là.
Ah là, tombé pour elle, ça va écouter. Hein.
Tombé pour elle.
C'est le moment de passer au bol à question.
Tu nous fais un petit jingle.
Bol à question.
Elle a pas hésité.
Excellent.
Elle a pas hésité. C'est jeté dedans. Sans hésitation.
Je n'ai aucun ego. On va commencer par profonde.
Allez.
Raconte l'histoire de ta vie en 4 minutes avec le plus de détails possible. Waouh.
Ouais, c'est
celle-là, on a hésité.
Elle avait trop peur, Camille.
Ça va. Je sais pas si c'est très intéressant. Non, tout le monde connaît déjà.
Mais ce qui est intéressant, c'est ce que toi,
comment je le dis,
tu places en 4 minutes. Genre, c'est quoi les détails, toi, qui te.
Ok.
Attends.
Ah oui, tu chronomètres vraiment, putain, les meufs.
Ah bah ouais.
Ok, c'est parti.
4 minutes, la vie de Enora Malagré en 4 minutes.
Petite bretonne élevée en Bretagne par des grands-parents et des parents merveilleux. Et puis, hop, boum, on m'enlève ma Bretagne, la mer et l'alcool. Et je débarque en région parisienne. Changement de vie, c'est beaucoup plus dur. Voilà, mais je me crée une bande de potes que je côtoie toujours parce que c'est très essentiel pour moi, mes amis, parce que je suis fille unique. Et puis, très rapidement, hop, les cours Simon. Voilà, je veux être comédienne parce que j'ai toujours voulu être comédienne. Ça me poursuit depuis que j'ai à peu près 4 ou 5 ans. Et puis c'est la belle vie. Et puis c'est la découverte de Paris, et puis c'est les bêtises, et puis tout ça, et puis c'est chouette, et puis hop, boum, la radio. La radio, Radio Nova, parce que Radio Nova, ça a changé ma vie entièrement. Moi, je n'avais pas tellement de culture, je ne m'intéressais pas à grand-chose, je voulais que faire des bêtises et faire la fête avec mes copains, normal, j'avais 19 ans. Et puis là, je rencontre une femme, Fadia Dimergi, la cofondatrice de Nova, elle change ma vie. Hop, je vais dans les musées, hop, je découvre des auteurs, des autrices, des peintres, etc. Oh, tiens, j'ai un cerveau, c'est pas mal. Tiens, pourquoi je ne l'utiliserais pas? Bonne idée, Nora. Hop, du coup, je commence à être chroniqueuse, à être animatrice sur Radio Nova. Puis après, là, la vie change un peu parce que j'arrive dans une vie, dans des grands médias, je pense à Énergie, à Virgin Radio, à Europe 1, etc., puis la télé. Et là, quand on arrive dans cette vie-là, eh ben, il faut être sacrément armé. Moi, je ne l'étais pas. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai vécu des moments formidables, mais j'ai vécu aussi des moments d'une grande intensité que j'ai eu du mal à gérer. Je me suis fait un peu happer par tout ça. Du coup, j'ai disparu un peu dans de la bêtise, un peu dans une caricature de moi-même. Et puis, ce qui est formidable, c'est qu'à un moment, on se réveille. On se réveille et puis on dit merde à tout ça et on essaye de se retrouver. Alors, on refait du théâtre, c'est ce que je fais en ce moment. On commence à se déconstruire aussi parce que la quarantaine est arrivée. Elle est cool, cette quarantaine. Pour les jeunes filles, les jeunes qui vont avoir 40 ans, il ne faut pas avoir peur de ça. Moi, ça m'a vachement aidée. J'ai l'impression que je me suis réveillée. J'ai écrit un bouquin sur ma maladie que j'ai vachement silencié. Puis, j'ai décidé de le raconter. Je me suis rendu compte que ça avait aidé vachement de meufs. Alors, du coup, j'ai accentué mon militantisme. J'en ai fait la moitié de ma vie, ainsi que d'autres combats que je mène aux côtés du planning familial. Enfin, finalement, convergence des luttes. Quand on met un pied dans la lutte, dans le militantisme, eh ben, je crois qu'on embrasse un peu toutes les causes parce que tout est très cohérent et complémentaire. Et puis aujourd'hui, j'ai 40 et quelques années et je me sens enfin apaisée, enfin heureuse. Je crois que je me suis enfin rencontrée. J'ai pas complètement tout réglé parce que la maladie entre-temps m'a beaucoup abîmée à d'autres endroits. Je vous dis pas les séances de psy parce que entre l'ancienne Enora qui était un peu fofolle et voilà, et celle qu'il faut réparer aujourd'hui, bon, ça me coûte une blinde, mais j'avance. J'ai rencontré aussi l'homme de ma vie. Ça, c'est pas mal. Ça aide beaucoup d'être en équipe parce que toute seule, moi, j'avais du mal. Il y en a qui sont très bien toutes seules. Moi, je crois que j'avais besoin d'un partenaire de vie. Et puis de chats aussi. J'ai deux chats. Ça m'aide beaucoup. Et voilà. Et aujourd'hui, donc, je suis beaucoup sur les planches. Je vais bientôt faire du cinéma, exclu. Et productrice aussi. Et ce que j'essaye surtout, parce que je n'ai pas d'enfant, que je ne peux pas en avoir, parce que c'est ce que la maladie m'a enlevé, c'est de transmettre tout ce que j'ai vécu, vu que j'ai pas d'enfant, et bah à tout le monde, à qui veut bien l'entendre. Mmh. Et la transmission aussi, ça répare vachement. Et j'en ai des choses à transmettre, parce que j'ai vécu beaucoup de choses, malgré que j'ai que 43 ans. voilà, en gros, c'est ça.
Waouh. Parfait, 3 minutes 30, je pense. Ouais. C'était pas mal.
Au final, c'était clair ou pas?
Ah bah, carrément.
Okay. Bon, bah, super.
T'es passé vite sur l'enfance et tout, l'adolescence. T'es pas attardée, parce
qu'il y a eu des choses pas très joyeuses. Okay. Beaucoup de... En fait, j'ai eu une enfance un peu compliquée, mais qui a été assez vite réparée, parce que j'ai quand même été très aimée. Mmh. J'ai vécu des drames, comme beaucoup de femmes. Mmh. Mais vraiment, il y a pire, quoi. Par contre, j'ai eu une adolescence vraiment chouettos. J'ai fait énormément de conneries, trop, par rapport au commun des mortels. Des trucs un peu graves, parfois. Mais j'ai appris à l'adolescence à être une bonne amie. Moi, je suis une bonne amie, je crois. Mmh. Et j'ai beaucoup d'amis. L'amitié, pour moi, c'est ce qui me tient. D'ailleurs, j'ai pratiquement pas d'amis dans ce métier. Et quand j'étais pas bien, quand j'étais au fond du seau, après avoir, par rapport à tout ce que j'ai subi, on le sait, de sexisme, etc., moi, c'est l'amitié qui m'a sauvée, à bien des égards.
Oui, parce qu'en plus, c'était des gens d'un autre milieu.
D'un autre milieu, et puis il y a des gens, ça peut être le couple, ça peut être la famille. Moi, j'ai pas tellement de famille, donc moi, c'est vraiment l'amitié. Quand j'ai fait mes fausses couches, quand j'ai dit que j'avais avorté, quand j'ai avorté tout court, quand j'ai dit que j'étais malade pour l'endométriose, à chaque fois, ce qui m'a aidée à tenir, c'est de solides amitiés. Et je crois que c'est vraiment important. On n'a pas besoin d'en avoir 5000, hein, mais c'est important d'être bien entouré parce que c'est un sacré socle dans la vie.
Je suis bien d'accord avec ça.
Sans blague.
Je voulais dire dans le podcast d'avant, mais qui sortira après, que vraiment l'amitié, c'était le truc que je plaçais au-dessus de tout dans la vie, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment
c'est important.
Une grande importance.
De ne pas se sentir seul et tout. Mais même si on n'est que deux, même si on a une amie ou un bon ami, d'avoir une paire d'oreilles à l'écoute, mais ça, c'est... Moi, je peux me passer de mec ou de meuf. Hein.
Mais alors, de la vie de couple, mais pas de l'amitié.
Vraiment, ça...
Et attends, parce que j'en profite pour faire une petite parenthèse, parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué avant de commencer le podcast. Là, t'as parlé donc de l'endométriose et de... Ah, la perceuse! Oh putain, j'en ai niqué. Elle est trop vénère. Oui, donc je disais, on a mentionné l'endométriose plusieurs fois parce que c'est un des combats que tu mènes et que t'essayes de transmettre, d'en parler, t'as fait en sorte que ce soit aussi plus publiquement connu, etc. Et nous, on en est évidemment reconnaissantes puisqu'on est aussi dans ces problématiques-là. T'es aussi donc... marraine du planning familial, ça. Et donc on parlait avant du fait que moi, naïvement, je croyais que ça y est, en France, on avait inscrit le droit à l'avortement dans la Constitution, ou en tout cas qu'on était à ça de le faire. Et tu nous as donc appris que ce n'était pas le cas.
Pas du tout. Là, ça va repasser devant le Sénat. Ce n'est pas du tout gagné. Apparemment, ça sent même plutôt mauvais. Donc il faut redoubler d'efforts. Parce que, alors, il y a pas mal de gens qui disent, par exemple, quand j'en parle moi sur les réseaux sociaux, non, mais ça va, il y a d'autres priorités. Oui, bien sûr, il y a toujours d'autres priorités.
Ah, mais enfin, tout le droit à l'avortement.
Mais c'en est une. Et le droit à l'avortement en France, il est un peu menacé, les amis. Pour une raison très simple, ce que je vous expliquais avant, par exemple, pour être très concret, le droit à l'avortement existe, mais il y a de moins en moins de gynécos qui le pratiquent. Pourquoi ? les anciens gynécos qui étaient des militants, qui étaient aux côtés des premières des militantes féministes, etc., partent à la retraite, laissent place aux jeunes gynécos, et les jeunes gynécos sont de plus en plus conservateurs, comme c'est le cas de, malheureusement, la société française, et donc refusent de pratiquer cet avortement en invoquant la clause de conscience, et refusent aussi de pratiquer un avortement parce que ça ne rapporte pas de pognon. Concrètement, c'est pour dire à quel point ça recule. Les anti-choix aussi, hein, les pro-vie, sont de plus en plus présents sur les réseaux, sont aussi présents dans les émissions de télé. Ils ont une tribune qu'ils n'avaient pas avant, parce qu'il n'y avait pas de raison de remettre en question ce choix. Mais malheureusement, il y a des émissions putassières, malveillantes, qui remettent le débat, ce sujet au centre du
comme
débat.
Comme si c'était un débat. Comme si ça devait être un débat.
Exactement.
Pour ou contre l'avortement.
Ouais, donc là, il y a une tribune qui circule en ce moment, qui a été créée par le planning familial, que je vous invite à signer. Elle est très facile à trouver, vous allez sur le site du planning familial, et il faut la signer, il faut mettre la pression à ce gouvernement, à ces vieux sénateurs et sénatrices chenus et poussiéreux, parce qu'une fois que ça sera dans la Constitution, on sera tranquille.
On entend beaucoup les antiféministes aujourd'hui dire que justement nos combats d'aujourd'hui sont dérisoires par rapport aux combats d'avant. Eh bien dans ce cas, les personnes qui pensent comme ça, qui pensent qu'aujourd'hui les néo-féministes, comme ils aiment à dire, vont trop loin ou se trompent de combat, et que les meilleurs combats c'était ceux d'avant, bah, le droit à l'avortement c'était censé être un combat d'avant. Donc, puisque vous pensez qu'avant, c'était primordial, mobilisez-vous au minimum pour ce truc-là, quoi.
Surtout, ce qui est un non-sens dans cet argument, c'est que et en fait, c'est quand même hallucinant qu'on doive retourner au combat.
Oui.
En fait, il faut qu'elles se rendent compte, ces gens qui sont, comme tu dis, antiféministes et tout, qu'il y a quand même un problème. Nous, on monte pas au créneau de gaieté de cœur.
Oui.
Moi, j'adorerais ne pas aller manifester. J'adorerais ne pas devoir dire tous les jours que le choix de ne pas avoir d'enfant ou de ne pas pouvoir... Enfin, tous nos combats, on va pas les énumérer là parce qu'on a les mêmes, mais que les combats pour nos amis femmes noires, ou d'ailleurs hommes noirs, etc. C'est-à-dire qu'encore une fois, la convergence des luttes, tout ce don pour on se... mais
oui,
vous croyez que ça
nous
amuse
pas, ouais.
Mais moi ça occupe vraiment véritablement, on va dire, allez, 40% de mon temps sur les réseaux et tout, mais enfin, ça fait chier, quoi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc, on est obligé de retourner au combat parce que malheureusement, il y a des abrutis qui ont fragilisé les droits qu'ont obtenus nos grands-mères et tout. Et merde, la honte, comment elles se sont battues pour nous, comment ils
dessus, ouais.
Se sont battus, parce qu'il y a évidemment des hommes et des femmes conjointement. Mais moi, j'ai honte quand je parle avec des anciens ou des anciennes militantes, par exemple du MLAC, etc. Ouais. Mais j'ai honte, et elles sont atterrées de voir qu'on doit retourner au créneau, mais pour toutes sortes de luttes, encore une fois. Mais c'est hallucinant. Mais merde, donc on est en 2023, on est en train de régresser, parce que justement, il y a la prolifération de la parole fasciste, de la parole conservatrice, de la parole raciste, qui revient, parce qu'on le voit bien, la société se re-radicalise. Merde, donc c'est loin d'être gagné, donc on est obligé de remonter au créneau. Et je vois que je m'énerve.
Donc signer la pétition.
Non mais tu sais, c'est vrai que quand au lendemain à peu près de l'annulation de la loi pro-avortement aux États-Unis, il y a eu une petite, parce que pour le coup elle était vraiment petite, manifestation à Paris. On est allé et il y avait des femmes avec des cintres, évidemment, pour venir exprimer un soutien, et il y avait des très vieilles dames avec des aiguilles à tricoter dans les mains. Et il y a vraiment des gens qui ne savaient pas. C'est-à-dire qu'on a posté sur les réseaux les cintres et les aiguilles à tricoter, et on a reçu pas mal de messages, du coup, de personnes plus jeunes qui n'avaient pas les refs. Et j'avoue que j'adore voir de très jeunes femmes dans les cortèges de manifestations, parce que ça me rassure, parce que je crois en la nouvelle génération. Mais voir ces vieilles dames, parce qu'elles étaient vieilles, on parle vraiment de dames de 80 ans.
Elles sont obligées de retourner dans la rue, ces femmes-là.
Ça m'a fait chialer. Enfin,
mais
vraiment,
attends,
j'étais
nous, on leur parle à ces femmes-là, elles nous disent. Mm-hmm. Nous, on pensait qu'on était tranquilles. Mm-hmm. et qu'on allait pouvoir arrêter cette lutte et se consacrer à, j'en sais rien, à la poterie. Non,
mais c'est vrai.
Mais je raconte n'importe quoi, mais elles sont obligées de retourner.
À une activité qui fait plaisir dans la
vie,
quoi.
Du coup, elles sont obligées de retourner dans la rue, ces meufs-là. On les a pas assez fait chier comme ça.
C'est pour ça mon petit message aux gens qui pensent qu'aujourd'hui on se trompe de combat, qui, je sais pas, s'en fiche de parler des règles, même si ça c'est débile, ou de voir du sexisme partout parce qu'il y en a partout, que vous êtes pas d'accord avec ça, etc. Ce que vous voulez. Au moins, du coup, venez vous battre, battez-vous un minimum, au moins pour le droit à l'avortement, parce que ça, a priori, vous trouvez que c'est bon, on avait le droit de le faire, même si à l'époque, elles étaient mal vues, bien évidemment, aussi par leur père. Mais bon. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse. Allez signer la pétition, on vous mettra le lien en description
beaucoup.
Du podcast. Il reste encore un peu de temps, et puis comme ça, vous vous penchez un peu dessus, et vous n'êtes pas comme moi. Qui pensait naïvement que ça y est, c'était réglé.
Moi, je suis persuadée, comme toi, d'avoir vu circuler l'info de c'est bon, ça a été inscrit dans la Constitution.
En fait, t'as dû voir passer que c'était passé une première fois au Sénat, et en fait, on s'est fait refouler. Et donc, voilà, du coup, voilà, ça repasse.
Bon,
je me
une
fais,
nouvelle question.
Chill, quel est le détail physique qui te plaît chez les autres? Putain, je suis maquée depuis tellement longtemps, j'arrive plus à me souvenir.
Ou même chez quelqu'un
non, mais dans
juste
la...
que tu rencontres.
Même des femmes, c'est pas forcément.
Franchement, moi, c'est pas vraiment un détail physique, c'est une attitude en fait. Moi j'aime les gens, j'aime les gens très sûrs d'eux moi. Mmh. J'aime les gens, même si j'aime les chieurs et les chieuses, j'aime les gens sûrs d'eux, j'aime les gens pleins de charisme, j'aime les gens qui, même quand ils... Moi par exemple, j'ai avec un mec qui a quand même assez souvent tort, mais qui est persuadé d'avoir raison. Ouais. Et en fait, sa façon de me convaincre qu'il a raison, alors que je sais très bien qu'il a tort, je trouve ça terriblement sexy. Ouais. J'aime quand les gens sont, tu vois, hyper convaincus, quoi. Même si parfois on n'est pas d'accord, je trouve ça terriblement séduisant. J'ai été attirée par des gens très, très chum, mais leur assurance me les a rendus...
Ouais. Je trouve ça... hyper impressionnant. Les gens qui correspondent absolument pas aux standards de beauté et qui ont une confiance en eux incroyable.
C'est très dur à avoir. C'est très très dur. Je suis d'accord, mais moi tout le temps je me suis dit, je me trouve pas très belle. Je me suis souvent dit, il suffit que je me dise que je suis hyper belle et ça va, je vais glow up. Tu
t'es
vois,
très
mais
belle,
c'est trop
quand
dur.
Même.
Si t'es jolie
non
mais
tout.
Ça va, il y a des gens, tu vois. Si, mais
si. Merci. Elle va rougir. Tu sais, c'est comme Camille qu'on avait reçue, Camille au Mont Carmel du compte Insta Je m'emballe Clito. Elle nous avait dit dans ce podcast, vous pouvez écouter l'épisode, elle nous avait dit qu'elle vraiment, enfin tous les matins, elle se regardait dans le miroir en mode je suis une énorme bombe.
Elle dit mais qui est cette fraîcheur?
Qui est cette fraîcheur? Ouais. Et en fait, c'est ce qui elle la pousse vers genre mais en fait rien ne peut m'arrêter vu que moi je me trouve fraîche. Et
c'est formidable.
Comme elle ça. Est extrêmement fraîche, enfin, je veux dire,
elle est sacrément belle, ouais.
Elle fait de l'effet.
Oui, mais en fait,
ouf,
elle
quoi.
Est sacrément belle, mais elle est extrêmement grande. Elle n'est pas forcément dans des standards de beauté. Elle a pas de cheveux. Elle est son corps, il correspond. Moi, elle me ressemble plus. Enfin, je me reconnais plus en elle que dans les mannequins qu'on voit. Enfin, tu vois.
Oui, taille 34.
Oui, voilà.
Tout,
elle est pas dans les standards de beauté et pourtant elle est très belle parce que elle rayonne de cette confiance justement.
Ouais.
Et en effet, il y a pas de secret.
Et toi ?
Mais moi, je crois, moi j'aime bien les fossettes comme petit détail. Attention, pas au menton. Au menton, ça me dégoûte.
La fossette du menton.
Ouais, la fossette du menton, la fesse du menton.
Le
menton.
La fesse du menton.
Ouais, j'ai du mal. J'ai du mal. Mais alors les petites fossettes sur les joues et après je suis très tatouage. Oh non, je vais le buter.
Et toi, du coup, ton péché mignon ?
Moi, mon péché mignon, c'est les mains et les pieds.
Les pieds.
Oui,
mais
mains,
c'est,
ok.
C'est
dans le sens regardé,
si
non,
c'est dégueulasse.
C'était priceless. Là, vous n'avez pas eu parce que c'est de l'audio, mais le regard de Nora.
Elle a pas aimé.
Les pieds. Non, son visage s'est transformé.
Elle est fétichiste des yep.
Mais les belles mains et les beaux pieds. Par exemple, j'ai horreur des moches pieds.
J'espère pour toi. J'espère que tu serais très chelou. J'adore les pieds horribles. J'aurais un doute.
Non, mais du coup, je veux dire, je m'y attarde fortement.
Mais c'est pas plutôt dans l'autre sens, du coup. C'est pas plutôt si quelqu'un a des moches mains et des moches pieds, c'est burk, burk, burk.
C'est rédhibitoire. Ouais,
mais t'adores les belles mains et les beaux pieds.
Ah, t'adores. Je suis comme ça, t'adores.
Moi, elles sont comment?
Elles sont pas mal.
Bon.
J'ai des mains d'enfant, moi.
J'ai des mains
pas crédibles.
Oh, elles sont toutes petites.
Oui, oui, c'est pas.
Non, elles sont mignonnes. Mais évidemment, moi, je parlais plutôt d'attraits
des
physiques
hommes.
Des hommes. Ouais,
ah, voilà, des hommes, les mains d'hommes.
Ouais. Des beaux pieds d'hommes, j'arrive pas à avoir.
Et des beaux pieds d'hommes, I love.
Mais je vois pas.
Ah, des pieds crochus.
Mais tu fais des trucs sexuels avec les pieds des garçons?
Pas du tout, en plus. En plus, pas.
Oui, c'est pas un kink.
Non, c'est pas un kink, c'est visuellement, esthétiquement, un beau pied, bien formé, pas trop velu, et avec les ongles. Le bien coupé.
Donc un Hobbit, c'est
coupé,
mort.
Hein, surtout.
Ah bah non, ça te dégoûte le film Hobbit?
Bah, les gros plans sur les énormes pieds avec des.
Et l'épreuve des poteaux à Koh-Lanta.
Ouais.
Juju, elle aurait rêvé d'être podologue.
L'épreuve, bah non, vois, l'épreuve des poteaux, elle aurait souffert ou pas?
Ouais.
À la fin,
il y a des zooms sur les pieds.
Ah oui, ils ont les pieds autour, agrippés autour du poteau comme ça.
En chèvre, ouais. Plans.
Ouais.
Ça fait un mois qu'ils ne sont pas coupés les ongles aussi, les frérots. Oui, enfin, ils sont dans la terre, tu vois.
Ah, je peux pas.
Donc, c'est une cata.
Moi, c'est un trigger. Je peux pas. Je peux pas regarder.
Moi, c'est l'épreuve où ils bouffent un énorme verre et toi, c'est les pieds.
Ah la ouais. Laine de ces gens au bout d'un mois en plus.
Ah ouais,
ils se brossent pas les cheeks?
Bah non,
avec du charbon.
Avec du ouais, soi-disant. Ouais. Zarma, ouais, super. Ouais. Allez, vas-y. J'imagine.
Du vieux charbon de leur feu.
Je veux savoir si t'as pas des secrets de Koh-Lanta. Je veux savoir si on peut prendre des gens qui ont des lunettes à Koh-Lanta ou s'ils ont jamais, du coup, si ça t'élimine du casting.
Ah, tu veux que je m'enseigne jamais... Je peux appeler Denis.
Parce qu'il y a personne qui a des lunettes et, ah ouais, et si t'as des lentilles, tu peux pas y aller ou ils te donnent un petit coin pour laver tes lentilles?
Je te jure que je vais essayer de me renseigner pour toi, je te promets.
Ça me tue
l'upine. Je te donne l'info.
Bail, disons, tu veux...
Non mais je te donne l'info.
Merci.
Je te promets.
Merci.
Et j'espère quand même qu'il n'y a pas une discrimination.
Bah, non mais c'est que du coup, sinon ça élimine les gens qui ont besoin de porter les... Toi, c'est par exemple, tu peux pas faire Koh-Lanta.
Bah surtout peut-être toi, en lunettes, peut-être qu'en lentilles. Ah, non, mais, moi je peux, mais en lunettes non.
Mais justement,
toi,
en lentilles, mes meufs, ils peuvent même pas se laver les mains avec du savon. Tu vas te toucher les yeux avec du sel.
Et surtout, t'as déjà vu une personne dans Koh-Lanta avec des lunettes?
Justement, plus.
Tu peux pas faire les épreuves avec des lunettes.
Moi, j'ai découvert pendant le confinement, c'est partie des trucs que j'avais jamais regardé de ma vie, donc je me suis un peu prise au jeu. Ça me fait souffrir parce que j'ai un traumatisme de l'école et de pas avoir d'amis. Ouais. Et alors, ça me trigger sur les trahisons, les groupes et tout. Mais je regarde comme on regarde un accident de la route.
Bah, voilà. Tu vois, et bah, tu ça me fait cette idée parce que le mec qui a inventé ça, John de Mol, il a créé ça. Petite anecdote, Michel Drucker. Il a créé ça. Donc, ça a été le premier jeu de télé-réalité, même la première émission de télé-réalité tout court.
Ah bon,
ça s'appelait Survivor. Allez, voilà, ça a été créé d'abord
avant le Loft.
Ouais, bien avant. Oui. Bah, c'était surtout à l'étranger, donc Survivor. Ah oui. Ce mec-là, en fait, aide sa petite fille à une fiche de lecture. Elle lisait ce bouquin qui s'appelle Sa Majesté des Mouches de William Golding. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sa Majesté des Mouches, ça parle de gosses qui sont abandonnés sur une île déserte. Rapidement, deux tribus se forment et ils s'entretuent. C'est assez trash. Et il se dit, super, je vais faire la même chose à la télé. Et il avait lu une étude en se disant, si je montre des gens qui s'entretuent, entre guillemets, à la télévision, ça va reposer. Les gens vont adorer parce que ça repose sur ce qu'on appelle la pulsion de mort en psychanalyse. Et la pulsion de mort, c'est regarder des gens, effectivement, s'étriper, s'écharper, se critiquer, etc.
Donc la télé-réalité.
Donc Cam, t'es à fond dedans. Voilà, tu es une bonne cliente. Et c'est pour ça que d'ailleurs, à titre personnel, j'ai toujours vraiment gueulé justement à l'émission, sur ce genre d'émission qui vraiment flatte les bas instincts, etc. Et moi, j'ai du mal à regarder ça. Mais je comprends la notion aussi, par contre, pardon, de divertissement de cette émission. Au moins, il y a des enjeux qui sont un peu moins, on va dire, vides que dans certaines autres, qui sont les télé-réalités d'enfermement, par exemple,
où il se passe strictement rien. Ouais.
Oui, et qui sont là pour, justement, vous savez, vider le cerveau de la ménagère, laisser de la place à l'achat qu'elle va avoir dans les pubs après. Enfin, je ne vais pas faire une démonstration ici, ce serait très long, mais on sait pourquoi ça a été créé. Mais voilà.
Oui, j'ai l'impression de regarder un truc moins débile, quand même, si je regarde Koh-Lanta. Mais ça me fait souffrir, et pour le coup, j'arrête. Enfin, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté l'émission, parce que, en fait,
quand même, voilà.
Je trouve ça méchant. En plus, après, je déteste voir sur les réseaux sociaux qui sont portés au nu les
méchants.
Le connard là, que tout le monde aime, Claude, là, je sais pas quoi. Alors que moi, je le vois dans l'émission, je dis, mais c'est un pervers toxique.
Tellement
c'est
gentil dans la vie.
Mais non.
Ah ouais.
Ah bon,
Claude.
Il est adorable.
Mais moi, dans les saisons, en fait, j'ai pas vu ces premières saisons.
Mais après, c'est ça.
Et d'un coup, je le vois dans les dernières.
C'est montré dans.
Parce que je peux dire que dans la vie,
le montage et la prod.
C'est un amour, ce mec. Moi, je l'ai rencontré à des trucs de Téloche. Il est du. Mais c'est.
Ah ouais.
Ah, mais c'est un bébé chat.
Tant mieux, tant mieux.
Ah, mais vraiment, c'est le mec, un des plus gentils que j'ai rencontré dans. J'en ai rencontré peu dans ce genre d'émission, mais lui, il est cool. Puis alors, la tête sur les épaules, sachant très bien pourquoi il fait ça. Il a monté une entreprise à côté, un mec vraiment super.
Ah oui, mais ça peut être dû à la prod et au montage.
Et même
à
l'environnement aussi, dans tel environnement.
Parce qu'il le montre comme méchant ?
Non, justement, pas trop, mais moi, de mon regard féministe, machin, je le trouve toxique à mort. Enfin, méchant, c'est vraiment le bully de...
Celui qui boule.
Le bouilleur de l'école, à mes yeux, tu vois. Le chef qui fait ses petits plans, qui se fait jamais attaquer par les autres, qui attaque tout le monde.
Et que tout le monde aime.
Qui, en plus, fait la fraternité masculine à la mort, alors que les meufs, si elles ont une once de sororité, elles se font détruire, enfin, c'est...
Ouais.
Oula. C'est aussi pour ça que c'était compliqué. Oui, Koh-Lanta. Mais c'est vraiment aussi ce rapport-là.
Moi, je regarde depuis l'année 1.
Ah oui, d'accord.
J'ai regardé les 15-20 saisons de Koh-Lanta. Et wow. J'adore Denis. Dis-moi qu'il est sympa, Denis.
Oui, il est gentil. Je l'adore. Il est hyper gentil, même. Dis-moi qu'il est plus que gentil. C'est vrai. C'est un des rares. Il y en a trois.
Hein. Ah, ouais, ça se voit. Ça se voit.
Oui, enfin, bon. Il est super.
PPDA, ça se voit qu'il était gentil.
C'est dingue. Tout le monde le savait. Ouais, tout le monde,
mais pas le public, quoi.
Non.
Ouais. Aux yeux du grand public.
Moi, on m'avait toujours dit, tu restes pas dans une pièce seule avec lui. Ah ouais, moi, j'ai jamais eu l'occasion parce que j'étais pas journaliste sérieuse, je dirais, mais je l'ai rencontré.
Ah ouais, t'as quand même été prévenue.
Ah ouais, j'avais 20 ans et c'était la consigne. Ouais. On avait toute la consigne.
Ouais, ouais. C'était donc il y a 25 ans. Ouais. Plus de 20 ans, quoi.
Ouais, et même bien avant. Hein. Et non, c'est la consigne était très claire. Donc non, c'est... Denis Brognard, pas du tout.
Oui, oui. J'adore Denis. Et donc, j'ai regardé toutes les émissions Koh-Lanta, et effectivement, c'est vrai que ces 2-3 dernières années, j'ai l'impression, depuis le confinement et depuis un peu l'enfer que ça a pu créer, le confinement sur les réseaux sociaux et les gens qui sont beaucoup trop chez eux et qui ont beaucoup plus de facilité à critiquer et être horribles, désagréables, méchants envers des gens qu'ils ne connaissent pas. Il y a eu vraiment ce truc-là. Mais d'ailleurs, Denis Brognard, il avait parlé sur les réseaux en mode « Mais arrêtez de clasher comme ça les candidats, de les harceler. » Il y en avait un qui s'était fait harceler sur son lieu de travail. Il y en avait une qui s'était fait harceler dans la vraie vie. Et c'était jusqu'ici visiblement du jamais vu avec l'émission Koh-Lanta qui est effectivement normalement une émission assez
familiale et bienveillante.
Ouais, voilà, c'est assez c'est des jeux, c'est on se marre et le côté télé-réalité n'a jamais été trop exacerbé, des histoires d'amourettes ou des gens jaloux.
Oui, non, mais la prod a jamais changé, eu trop je crois ça que c'est quoi. Plus les mêmes producteurs et je crois que maintenant c'est de plus en plus axé justement
en brouille et tout.
Exactement. Alors
je crois que ça se ressent après.
C'était plus jeu et aventure.
Ouais.
Mais tous ces gens qui clavent Instagram. Ouais, on en avait parlé entre nous, vous savez, quand on s'envoyait des messages. Est-ce qu'il faut visibiliser ces gens? Enfin bon, ça c'est un vaste sujet, mais...
Oui, quand des choses nous paraissent aberrantes.
Oui, quand il y a du harcèlement, des trolls, quand il y a des trolls, etc. Moi, c'est vrai que je suis d'une ancienne école, donc je pense qu'il ne faut pas les visibiliser parce que c'est comme les émissions qui portent des messages très dangereux. Je pense que ce qu'ils cherchent, c'est de... Nique ça. Je pense que ce qu'ils cherchent, c'est de faire le buzz. C'est un système. Et donc, ils savent très bien que si on visibilise leurs arguments dégueulasses ou leurs propos dégueulasses, ça leur donnera du crédit et ça fera de la pub, etc. C'est un cercle vicieux très compliqué.
Oui,
tout ça est très compliqué.
Sinon, si on ne les visibilise pas, on ne montre pas à quel point on a trouvé ça aberrant et absurde, voire dangereux.
Je sais
bien. Du coup, c'est vrai que
donc on ne donne pas le discours opposé.
Voilà. Et je sais bien, mais
c'est un débat
compliqué. Mais c'est un débat qu'on a tous et qui est un débat. Et moi, je ne dis pas que j'ai raison du tout. Hein. Parce que je me rends compte qu'il faut aussi un contre-pouvoir. On est obligé. Mais en même temps, comme moi, je connais, je parle plutôt du côté télé, je connais les coulisses et je sais qu'ils n'attendent qu'une chose, mais c'est le système.
C'est que tout le monde parle d'eux.
Ah bah évidemment. C'est-à-dire que tu fais ça, il faut un débat absurde ou une séquence absurde dégueulasse. Ils savent très bien que ça sera repris sur les réseaux, puisque ça, nous, on n'avait pas quand on a des publicités en télé.
Oui,
c'est une pub merveilleuse de prendre juste les séquences qu'il faut, en plus. Hein.
Ouais,
Donc, tu prends la séquence, hop, elle est virale. Donc, qu'est-ce qui se passe?
Hop,
elle est
les
virale.
Meilleures audiences.
Eh bien, le lendemain, l'audience est multipliée par deux parce que les gens ont vu circuler la vidéo sur les internets, 112 ans, sur différents réseaux sociaux et se disent, on va aller voir le lendemain dans cette émission s'il y aura un débrief là-dessus, ce qu'ils vont en dire. Et donc,
et puis mine de rien, quand tu en parles, ça tourne, et quand ça tourne, tout le monde n'est pas d'accord avec nous, donc on tombe aussi
sur les gens à qui ça donne envie.
C'est pas une majorité, mais certains qui disent parfait, vous m'avez fait découvrir ce rappeur d'extrême droite, je vais m'abonner. C'est quand même peut-être une minorité, mais c'est vrai que nous, c'est un débat qu'on a souvent.
C'est pas une minorité.
Mais en même temps, on a tellement aussi envie de montrer l'absurdité et que les gens, il y a des gens qui sont un peu dans une bulle, et nous, par exemple, quand on met en avant les commentaires haineux qu'on reçoit, c'est aussi parce que les gens, même nos proches ou quoi, se rendent compte que on reçoit ça en fait au quotidien, que ça impacte, que ça existe, qu'ils sont nombreux.
Oui, et parfois ça ouvre les yeux aussi des gens qui n'ont juste aucune idée de ça et qui se disent je ne regarderai jamais cette émission.
Les filles, qu'en arrivant sur les réseaux sociaux, je vais être un peu chiante là, mais c'est parce que moi j'ai tendance à me dire, vous imaginez moi ce que je subis depuis 20 ans.
Bien sûr.
Moi, je me suis dit, mais si jamais je fais de la télévision. Après, je suis, pas influente, parce que je ne le suis pas, moi, mais je suis présente, sur les réseaux sociaux. Forcément, tu es sur les réseaux sociaux, il faut s'attendre à ce que tu aies une plèbe de débiles, en plus via l'anonymat, qui va évidemment te sortir des saloperies. il faut s'y attendre. Je veux dire, on n'est pas en boulangerie, on n'est pas. Donc, on est sur les réseaux sociaux, ça fait partie du jeu. Donc, à un moment donné, je pense que s'en offusquer ou en faire énormément un sujet. Je sais pas si c'est. C'est un peu con ce que je dis.
On sait pas.
En fait, dans un sens.
Non, je crois pas.
Mais en fait, dans un sens, je suis d'accord avec toi et en même temps. Prout. En même temps, ça valide un peu et bah du coup, c'est bien mérité. L'impunité. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est bien mérité. Si des mecs nous écrivent pour nous dire, pour nous souhaiter de se faire violer, enfin tu vois. Or, ça devrait juste pas exister.
T'as raison.
D'être aussi.
Oui, c'est-à-dire que tu dis c'est pas impunément notre faute, méchant. Voilà. Non, mais t'as raison en soi. Tu vois,
après,
j'ai une connerie.
Ce qui est sûr, c'est qu'on s'y attend.
C'est pour ça que c'est pas une connerie, mais que c'est plus compliqué. C'est pour ça qu'on revient.
Plus compliqué que ça.
C'est que en fait, on n'arrive pas à avoir la réponse au final. Et que nous, du coup, on le fait selon notre humeur. C'est-à-dire,
voilà.
En fait, on estime que parfois.
Mais moi, j'ai appris de gens de votre génération. Hein. Moi, j'ai appris parce qu'au départ, je regarde pas. Ça, c'est sûr, je regarde pas parce que sinon, tu te tires une balle. Au pire, moi, ça fait tellement longtemps, j'ai plus la force maintenant.
Oui, ça va.
Quand t'es jeune, t'as un peu la force, t'as envie de gueuler. Maintenant, je peux plus. Je suis trop fragile. Mais par contre, ce que je fais, et grâce à des femmes comme vous, où je pense à Abby Beach avec qui j'avais une conversation sur Instagram, qui m'avait dit, mais meuf, si t'as des harceleurs, vas-y, tu les affiches sur les réseaux. Ou si, par exemple, j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps avec une jeune femme qui est très influente sur les réseaux, l'interview ne s'est pas bien passée. Elle m'avait invitée à parler de la maternité, sauf que moi, je ne peux pas avoir d'enfants. Donc, j'étais avec des femmes qui pouvaient avoir des enfants et c'était très douloureux pour moi. Après, j'ai eu plein de commentaires grossophobes parce que j'avais pris beaucoup de poids à cause de mon traitement
Sous
la vidéo. Donc tout ça, je pense pas que ça partait d'un mauvais sentiment, mais tout ça a été très douloureux pour moi. J'ai décidé de lui en parler. Avant, je fermais ma gueule quand je vivais mal des interviews, ou quand je me sentais pas safe. Et du coup, c'est des jeunes copines comme vous, jeunes, j'ai des amis jeunes,
et voilà, jeune.
Voilà, et qui sont sur les réseaux comme vous, et qui m'ont dit, mais Nora, en fait, tu sais quoi, moi, je suis dans un truc, j'ai été habituée à être un peu victime, à fermer ma gueule.
On subit,
je suis habituée à ça. Ils m'ont dit, mais en fait, t'as plus à. Si t'es pas satisfaite, si t'es pas contente, si tu t'en pas safe, si tu tombes sur des gros cons qui te disent vas-y, tu le dis. Et ben maintenant je le dis, donc t'as pas. Et parfois ça me fait quand même du bien. Je le fais pas systématiquement parce que je veux pas le visiter.
En plus, t'as beaucoup plus d'expérience. Enfin, je veux dire, c'est complètement logique que tu le dises. Elle a dû même se. J'espère qu'elle s'est sentie morveuse. C'est ça l'expression qu'on dit ?
Ah, pas du tout. Pas du tout. Elle a dit que c'était pas son problème. Que c'était elle l'a fait. Après elle l'a fait un peu, je crois qu'elle a retiré quelques commentaires, mais en gros quand je l'ai appelée en lui disant mais c'est hyper douloureux pour moi de me recevoir des commentaires grossophobes, surtout qu'en plus quand tu prends du poids et que t'es malade, je peux vous dire que c'est dur.
Attends,
quoi, parce que et de toute façon tout court et non j'ai pas, il y avait aucune empathie, mais c'est pas quelqu'un de sorore du tout.
Non.
Alors que les filles avec qui j'ai fait l'interview étaient fantastiques, gentilles, bienveillantes et tout, mais t'es là, putain, t'entends parler pendant une heure de leur grossesse, de machin, et toi t'es là, t'arrives, ta dernière fausse couche, elle date il y a pas si
déjà
longtemps,
ça manque un peu de...
Tu peux pas, mais en plus, j'étais pas prévenue.
Oui, c'est ça le problème surtout, c'est que si tu... On peut t'inviter pour parler de ce sujet, putain, parce qu'après tout, tu peux avoir envie de le porter,
j'étais
mais
mal. Et attends, parce que du coup, dans les commentaires, il y avait plein de gens, et je les comprends, qu'on dit, bah putain, elle est pas aimable, mais j'étais là, mais je vous jure, sur la tête de ma mère... Il y a 2-3 fois où j'avais envie de chialer un peu. Du coup, j'étais hyper fermée. Je faisais la gueule parce que j'étais
normal.
Là. Mais merde, quoi. Qu'est-ce que je fous là ? Donc, j'ai probablement été assez désagréable. Mais parce que, putain, j'étais là. Mais qu'est-ce que je fous là ? C'était dur. Bon, ça va, j'ai vécu des choses plus dures dans ma vie. Hein. Mais c'était une expérience... Ça faisait longtemps parce que maintenant que en plus on est déconstruite, on est hyper féministe et tout. Je traîne que avec des gens super bienveillants. C'est super chouette. Tu te dis, bon... Et là, j'avais l'impression de retourner dans des moments, vous savez, où j'étais sur le plateau télé avec que des couillons qui t'en foutent plein la tronche. C'était dur. Ça m'a fait du bien de me plaindre, merci.
Bah, alors, t'es au bon endroit.
Écoute,
crois-moi bien.
S'il y a bien un endroit...
monologue, là, je suis
désolée. Attends, vraiment. Si tu te réveilles un matin et que t'as envie de te plaindre, il y a qu'à venir nous voir. Hein.
Mais enfin, sur un canapé, j'ai l'impression que t'es chez mon psy.
Ah bah.
En fait, je vais éviter d'aller chez mon psy qui me prend, comme je vous l'ai dit, un bras. Je viens chez vous et je me plains pendant 15 minutes d'affilée.
N'hésite pas, c'est notre activité préférée.
Il
n'y a rien qu'on préfère plus que ça.
Merci. C'est vrai. Non, mais je crois que c'est bien d'en parler aussi et de se dire que. Et donc, du coup, grâce à vous, à cette nouvelle génération, je me permets maintenant de dire non.
Et bah ça, c'est super. Et juste pour clôturer sur donc les haters, il y a vraiment. Plusieurs possibilités, il n'y a pas une bonne réponse, c'est si ils vous agacent, et ben vous les envoyez se faire foutre ou vous les ignorez, mais il y a pas, moi je pense qu'il y a pas la bonne chose à faire
il y a juste qu'un ressenti, quoi. Nous, vraiment, on passe par tous les ressentis possibles. Parfois, on les ignore. On est là, oh, ils en valent pas la peine. Et le lendemain, on les insulte.
Parfois, on leur répond en privé.
Dépend de leur humeur, en fait, c'est ça.
Ouais, ouais,
c'est ça.
Franchement, ouais. Voilà, c'est une bonne conclusion. Et peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura trouvé, entre guillemets, la façon de faire.
La bonne façon.
Mais on est en train de tout créer aussi. Ça, c'est un nouveau monde. C'est quand même vraiment un nouveau monde qu'on fait comme on peut.
Oui, ouais, ouais. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas.
C'est vrai qu'on
sait
quand même la
bonne carte. Ouais.
Déjà, quand je vois comment il y a 5 ans on réagissait aux commentaires par rapport à comment on réagit aujourd'hui, il y a, plein de choses qui ont évolué. Enfin, tu vois. Donc, on est en train de le construire, ce monde-là, en fait.
Ouais, ouais,
donc, on essaye, on tâtonne, et puis ils vont se faire cuire le cul à un moment.
Enfin, tu vois. Bah, très belle conclusion.
Eh bien, on a tellement papoté qu'on s'approche de la fin du podcast, figurez-vous.
D'ores et déjà.
Et bien sûr, ça fait déjà 1 heure.
3 pipelettes ensemble.
Ah ouais, c'est clair. Hein, on aurait pu faire 3 heures, là, c'est sûr.
C'est ça. Mais avant, on va passer au top flop culture. C'est-à-dire qu'on va parler d'un livre,
une œuvre,
film, série, une œuvre que tu as vue ou entendue ou quoi récemment et que tu as aimé ou détesté. Parce que ici, comme on peut râler aussi, on peut vraiment. Détester, elle a eu des étoiles dans les yeux. Alors qu'on a tant de gens qui disent non, je préfère mettre en avant des trucs bien. Je comprends, mais.
Ah là là. Alors, un truc que j'ai adoré, un film que j'ai adoré, c'est Annie Colère.
Oui.
Sur les militantes de la première heure pro-avortement, pardon, qui sont les militantes du MLAC, magnifiquement interprétées par Laure Calamy. Donc ça, c'est coup de cœur. Et coup de gueule en termes de film, j'ai détesté Blonde sur Netflix.
Sur Marilyn Monroe ?
Oui, détesté.
Ah, j'en ai entendu bien du mal.
J'ai trouvé que c'était une interprétation de ce que cette femme était. Je l'ai trouvé ça immonde, j'ai trouvé ça sexiste. À un moment, il va falloir quand même en parler du fœtus qui parle au moment où elle va avorter. Oh donc déjà, oui. Donc enfin, qui parle. Ça c'est pas possible.
C'est personnifié.
Non, mais ça c'est pas possible. Alors l'actrice est phénoménale. Hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est Marilyn Monroe. Donc je ne parle pas.
À part qu'elle est maigre.
Ouais.
Oui,
c'est vrai d'ailleurs.
À part qu'elle est mince et que
femme ronde, magnifique, etc.
Et que c'était au cœur de sa vie, surtout, ses problèmes de poids.
Exact.
Enfin,
oui,
son rapport à son poids était
là-dessus,
au cœur de sa vie. Ils ont pris une fille maigre.
Mais l'interprétation est bluffante, on dirait Marilyn. Donc, je ne parle pas du jeu d'acteur, mais même de la... C'est très beau, c'est très léché, etc., d'un point de vue cinématographique. Mais je trouve que la façon dont cette femme... C'est-à-dire qu'elle est décrite comme une nana complètement hystérique, qui fait que chialer, etc. Marilyn Monroe, c'était aussi une femme d'affaires. C'est aussi la première actrice qui a monté sa boîte de production dans un univers où seuls les hommes y avaient le droit. C'est quand même une immense actrice, une merveilleuse chanteuse de jazz, moi qui adore le jazz. Je trouve que là, tout cela est très effleuré. Ça fait juste la nana un peu starbée. Et je pense qu'elle la réduire à ça, encore une fois, pour moi, c'est une vision sexiste. Voilà. C'est bien déjà.
Ouais. Trop bien. Toi, t'as moi, j'ai le sentiment d'avoir déjà recommandé dans un des podcasts, donc j'espère que c'est pas le cas. Mais ce sont les BD de Théo Grosjean. Les ai-je déjà recommandés ici ?
Je sais pas.
Voilà, c'est un mec qui écrit des BD autour de sur son anxiété globalement, et il a écrit 2 BD qui s'appellent L'homme le plus flippé du monde 1 et 2 que j'adore. Et là, il y a pas longtemps, il a sorti une nouvelle BD qui s'appelle L'œil du cyclone, et il se concentre plus sur son histoire d'amour. Comment il la vit avec son anxiété et ses crises d'angoisse. Et voilà, ce que ce mec écrit, et même sur son compte Insta, il poste beaucoup de petites BD.
Il n'a pas fait une petite série animée où c'est Kian Kojandi qui fait la voix.
Exactement.
C'est sorti où, ça ? Sur
Canal.
Ah,
ou Beagle, Canal quoi. Avec. Et c'est justement L'homme le plus flippé du monde, adapté
en
petit dessin animé. Que j'ai moins aimé parce que je connaissais déjà la BD, je voyais pas forcément l'intérêt de le faire en dessin animé.
Les gens, s'il y a des gens qui aiment, qui n'ont pas envie de lire ou d'acheter des BD, peut-être vous pouvez découvrir
à
travers
ça. Ouais. Et j'adore parce que je, en tant que personne très anxieuse, je m'identifie mais à 100% à ce que ce mec écrit, et c'est vraiment. Extrêmement plaisant de se sentir complètement
compris.
Genre c'est moi quoi. Voilà, et ça c'est cool qu'il parle d'amour avec anxiété parce que c'est intéressant. Voilà, c'est ma reco.
Moi, je vais conseiller le livre L'année de grâce qui est un livre un peu jeune adulte, la catégorie des livres un peu Hunger Games et compagnie. Là vraiment on est sur un peu un croisement justement de Hunger Games et de The Handmaid's Tale. Pour les personnes qui ont la ref, on est donc dans un monde où les femmes, toutes les femmes de là où
de
on est,
vie.
De l'endroit, exactement, toutes les femmes de sa vie, elle s'en
jolie fadiaise,
la tierce, toutes les femmes de 16 ans, l'année de leur 16 ans, elles sont exilées Elles doivent sortir de leur ville. Elles sont exilées pendant un an parce que il faut qu'elles aillent expulser leur magie. Et du coup, elles vivent pendant un an un genre de Koh-Lanta, enfin de survie. On découvre qu'elles s'entretuent, enfin qu'à chaque fois que les femmes reviennent de ça, personne n'en parle. C'est le secret absolu de ce qui s'est passé pendant un an. Et qu'il y en a, il leur manque des doigts. Déjà, elles partent à 30, elles reviennent à 15. Mmh. Donc il y a moitié qui est morte. Elles reviennent, elles sont mutilées, elles sont mutiques. Enfin voilà, c'est et rachitique, etc. Et donc c'est qu'est-ce qui se passe pendant cette année. Et donc on suit un des personnages, une jeune fille de 16 ans qui va faire cette année de grâce, et en fait évidemment on découvre que elles sont exilées parce qu'elles sont magiques. Est-ce que c'est une métaphore parce que c'est elles deviennent des femmes et que c'est une société extrêmement patriarcale et sexiste peut-être. Et donc et voilà, et que peut-être la sororité peut les aider, mais c'est très dur d'être soror dans un milieu extrêmement sexiste, enfin voilà. Donc vraiment je l'ai dévoré. C'est la littérature, enfin il se lit très très vite et c'est jeune adulte, donc vraiment vous pouvez l'offrir à des jeunes filles ou des jeunes garçons et aussi le lire en tant qu'adulte, c'est trop cool. Et mon petit bémol, voilà, je vais le faire, mais petit bémol, j'ai été voir Avatar 2. Bon, petit alors j'en ai parlé longuement parce que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une critique du film parce qu'il m'a vraiment un peu trotté dans la tête.
T'as pas aimé globalement?
En fait, j'ai aimé aller le voir au cinéma, c'est-à-dire que j'ai passé 3 bonnes heures au cinéma, j'étais tout à fait divertie, et ensuite quand tu y réfléchis, tu dis c'est marrant parce que pour 3 heures de film, il y avait pas de scénario, c'est quand même un peu dommage. C'est marrant parce que ça devient un petit peu sexiste. Et après les gens ils sont là mais n'importe quoi, James Cameron il a donné des super beaux rôles à des femmes. Oui, enfin dans Titanic ça passe pas le test de Bechdel non plus, tu vois. Voilà, bon, c'est
bémol.
Ouais, petit bémol, parce que je dirais si vous le voyez le au cinéma ou ne le voyez pas.
C'est ni reco pas reco.
Non mais c'est
voyez-le ou pas.
Non mais c'est bougez-vous le fion un peu les scénaristes quoi. Enfin, ouais. Tu vois, allons un peu travailler un peu mieux scénar de film aussi important. Non mais parce qu'à côté je rejoins ton coup de cœur sur Annie Colère. Moi aussi je l'ai vu, j'ai adoré, j'ai fait que pleurer, je trouvais ça formidable. Et c'est un petit film qui marche pas. Enfin, ça m'énerve.
Mais aller au cinéma surtout et aller au théâtre. Ah oui. Parce que c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Je vais parler comme Miss France, mais c'est vraiment de vivre ces émotions ensemble, à l'unisson, dans une salle de spectacle ou de cinéma. Moi, je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de plus beau, quoi, je trouve.
Et bon, aller au cinéma, 12 euros la place, ça pique.
J'avoue, ça pique un peu. Mais pour des grandes messes ou des films importants, on l'a évoqué avec Annie Colère, je pense que c'est bien, ça vaut le coup. Pas pour aller voir Didier Bourdon. Ça, c'est
voilà. Mais en plus, Annie Colère. Non, mais allez voir.
J'ai rencontré lui, le pauvre. Mais on a compris.
Bon. C'est bon, voilà, c'est vu. Eh bien, merci en tout cas d'être venue, Enora.
Quel
est
plaisir.
Très, très, très
merci
beaucoup. De t'avoir reçue. Oui. Ça nous fait trop plaisir.
On était tout excités.
Merci beaucoup pour votre bienveillance, pour vos mots qui m'ont reboostée. Je suis très contente parce que je vous aime beaucoup. Je trouve que ce que vous faites est important. Joyeux, vous le faites avec beaucoup de joie et ça passe encore mieux du coup. Et moi, vous me donnez vachement d'espoir. Et maintenant, on va être copines.
Oui.
Parce que comme je vous l'ai dit,
j'aime beaucoup l'amitié.
J'ai très envie d'être copine avec vous. Non, mais merci beaucoup, beaucoup de m'avoir invitée.
Et désolée, désolée si vous avez entendu une perceuse ça et là. C'est qu'il y a des travaux à côté. On a essayé de faire au mieux. J'espère que c'était pas trop dérangeant.
Bon, ça vous a toujours moins dérangé que nous. Donc
oui, voilà. Allez.
Parce que nous, on a ça depuis ce matin. Donc tranquille. Mal parler à ses abonnés, c'est aussi c'est la force de Camille et Justine.
Allez les copains, merci.
Bye.
On espère que cet épisode vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes audio, à le faire tourner, nous laisser des étoiles, des cœurs, des mots doux, des commentaires quand c'est possible. Ça nous aide à référencer le podcast.
Et vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube, sur Instagram et même sur Facebook pour les plus vieux d'entre vous en tapant Camille et Justine. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain numéro.
Merci, bye.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.